Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Science, Quelles Histoires, un podcast de la Fondation Ibsen. Aujourd'hui, direction l'époque moderne en France pour évoquer un bâtiment emblématique de notre histoire nationale, l'Hôtel Royal des Invalides. Institution précurseur dans la prise en charge du personnel militaire handicapé, elle connaît sous le règne des rois Louis XIV, Louis XV et Louis XVI un véritable âge d'or en accueillant au plus haut de ses capacités jusqu'à 5000 personnes. Bâtiment polyvalent, l'Hôtel Royal des Invalides comprend également une église et sert encore aujourd'hui d'hôpital et d'hospice pour les blessés de guerre et les personnes ayant besoin de réhabilitation post-traumatique. Il fait également office de panthéon des gloires militaires. Le site est un des lieux les plus visités de Paris avec plus de 4 millions de visiteurs chaque année. Pour ce podcast, nous allons largement nous reposer sur l'article « Une institution au service des militaires âgés, blessés et estropiés » au XVIIe et XVIIIe siècle, l'Hôtel Royal des Invalides. Écrit par Elisabeth Belmas, professeure à l'Université de Paris 13, cet article est issu de l'œuvre collective « Handicap et société dans l'histoire, l'estropié, l'aveugle et le paralytique, de l'Antiquité au temps moderne », ouvrage sur lequel nous nous étions largement reposés lors de notre cycle sur la perception du handicap dans la Grèce antique. Et donc, Elisabeth Belmas nous le précise tout de suite, l'Hôtel Royal des Invalides est une des rares fondations de Louis XIV pour laquelle il ressentira une grande fierté jusqu'à la fin de sa vie. C'est le 24 février 1670 qu'est signé l'édit de Saint-Germain-en-Laye, qui fonde ainsi les Invalides. Ce sera Louis XIV lui-même qui posera la première pierre, inaugurant ainsi le début des travaux. Le bâtiment sera officiellement inauguré en octobre 1674 et sera terminé dans le courant des années 1690. Mais dans quel contexte s'inscrit la décision de Louis XIV de fournir à ses soldats blessés et handicapés un refuge ? Eh bien, il faut aller chercher dans les règnes de ses prédécesseurs pour trouver des éléments de réponse. En effet, Louis XIV ne fut pas le premier à désirer prendre soin de ses militaires blessés et il était en fait le successeur d'une longue lignée de rois de France qui avaient envisagé plusieurs types de solutions pour les prendre en charge. Comme nous le précise l'ouvrage « Histoire de la médecine aux armées » dirigé par Jean Guillermand, c'est d'abord dans l'Empire romain que l'idée d'établir un service de santé militaire est née. En effet, les Romains furent les premiers à ouvrir des hôpitaux pour leurs combattants et à attribuer un médecin à chaque cohorte. Jean-Pierre Bois, dans « Les anciens soldats de la société française », nous précise quant à lui que dans le royaume de France, l'idée a commencé à se poser sérieusement à la fin du XIIIe siècle, mais pas forcément pour la raison que l'on imaginerait. En effet, à l'époque, il s'agissait plus d'offrir un refuge aux soldats hors temps de guerre, puisqu'ils avaient l'habitude de se disperser dans les campagnes en groupes plus ou moins larges, créant ainsi des foyers, réels ou potentiels, de délinquance. Jusqu'à Louis XIV, les rois de France oscillèrent entre quatre politiques pour prendre en charge leurs soldats invalides. La première consistait à confier nombre de soldats mutilés au combat aux abbayes. Ces derniers pouvaient devenir moines eux-mêmes, religieux sans en avoir le titre, ou bien juste faire partie de la communauté sans prononcer de vœux. Ils devenaient donc oblats. Louis XI, Charles VIII et Louis XII privilégièrent tous cette solution et elle fut même officiellement confirmée par le Concordat de Bologne, signé en 1516 par François Ier. Seul problème, la cohabitation se passait très souvent mal car, comme nous le précise Elisabeth Belmas, les mœurs des anciens combattants étaient souvent rudes et peu en adéquation avec le style de vie monastique. De plus, il arrivait souvent que les soldats revendent leur place octroyée aux plus offrants ou bien que des soldats valides usurpent l'identité de mutilés de guerre. La deuxième solution consistait à accorder une pension aux invalides de guerre tout en les renvoyant chez eux. Les abbayes qui étaient jusqu'alors censées prendre en charge les soldats se voient proposer par Henri IV de payer une taxe trimestrielle de 60 livres. Pour les moines, cet effort financier avait surtout pour but, comme nous le précise Elisabeth Belmas, de se séparer de leurs turbulents pensionnaires. Mais il s'avéra que cette deuxième solution fut si mal appliquée que le roi finira par obliger les abbayes à revenir à la première solution. La troisième solution consistait à prolonger le service de ces soldats en les positionnant dans des forteresses et des garnisons où ils remplissaient un rôle de garde, de guet, en adéquation avec leur handicap. Ainsi, cela leur permettait de garder une petite solde et de rester actifs pour ceux qui en étaient encore capables. Et enfin, la quatrième et dernière solution était de leur dédier une institution. Ce fut la solution privilégiée par les deux prédécesseurs de Louis XIV, Henri IV et Louis XIII. Ainsi, Henri IV met à disposition l'ancien hospice de Saint-Jacques-du-Haut-du-Pas, situé sur les routes de Saint-Jacques-de-Compostelle dès 1594. En 1633, Louis XIII fonde la commanderie de Saint-Louis qu'il fait financer par une taxe sur les abbayes pour entretenir jusqu'à la fin de leur jour les soldats éclopés. Mais Elisabeth Belmas nous précise que le roi dut reculer sous la pression de l'Assemblée générale du clergé, toute puissante à l'époque qui était tout à fait contre la taxation des monastères. Et c'est donc la solution entrevue et proposée par son grand-père et son père que Louis XIV développera à sa manière. Car la création de cette institution se fond dans un contexte plus large que le fait de vouloir créer un hôpital et une maison de retraite pour les invalides de guerre du royaume. Dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, ce qu'appelle Elisabeth Belmas un projet sécuritaire se met en place qui s'apparente plus au souhait des autorités de rendre invisibles ceux qui étaient considérés comme une menace sociale, car pauvres et susceptibles de mendier ou de tomber dans le crime en leur fournissant un toit. On peut également noter la rivalité qui opposait Colbert, alors réorganisateur de la marine, et Louvois, rénovateur de l'armée de terre. Le premier avait octroyé beaucoup d'avantages à ses marins comme une demi-solde hors du temps de service. La création de l'Hôtel Royal des Invalides peut donc paraître, dans ce contexte, comme la réponse de Louvois à Colbert. Quoi qu'il en soit, l'objectif du bâtiment est de pouvoir accueillir 1500 invalides de guerre ou anciens combattants. La question du financement, bien entendu, se pose. Ce sera à l'Église de financer une bonne partie puisqu'elle se voyait déchargée de prendre soin des soldats invalides. Elle verse donc une pension équivalente au coût de leur entretien, comme dicté par l'édit d'établissement de l'Hôtel des Invalides signé en avril 1674. Le reste du financement est apporté par le roi. Mais vous vous dites sûrement, au final, qu'à une époque où les guerres étaient fréquentes et très invalidantes, 1500 places pour les soldats invalides ne représentent pas une si grande capacité d'accueil que cela. Et vous avez raison. Les critères d'admission étaient en fait très sélectifs et fermaient la porte à une grande majorité des invalides de guerre. À sa création, il fallait justifier d'au moins 10 ans de service pour les simples soldats ou bien être un sous-officier. Ceux qui portaient d'handicap très lourd ou avaient été grièvement blessés étaient susceptibles d'être acceptés, peu importe leur ancienneté dans les armées du roi. Il fallait de plus pouvoir continuer le service ou ne plus être en mesure d'assurer sa propre subsistance. Et donc, forcément, la capacité d'accueil de l'Hôtel Royal des Invalides est rapidement augmentée. Le manque de place se fait ressentir dès les premières années. En 1680, on recense déjà plus de 5000 inscrits dans les registres. 10 ans plus tard, plus de 2000 soldats vivent de manière permanente à l'hôtel. Après la guerre de succession d'Espagne, qui se termina en 1714, 10 000 personnes nécessitent une prise en charge de l'hôtel pour une capacité d'accueil de 4 000 places. Cette augmentation rapide du nombre de pensionnaires força la main de la monarchie qui dut rendre les critères d'admission encore plus sélectifs pour éviter la surpopulation de l'hôtel. Le règlement du 3 janvier 1710 vient ainsi durcir l'entrée. Désormais, il faut justifier de 20 ans de service continu et ininterrompu, sauf en cas de blessure très grave et certifiée par le chirurgien-major de l'institution. À la fin du XVIIe siècle, on met également en place un principe de détachement qui permet à certains résidents dont la condition s'est nettement améliorée ou dont l'invalidité n'empêchait pas la reprise du service, d'aller protéger et défendre des places fortes. Ainsi, en 1709, 78 compagnies détachées issues des invalides rassemblaient 4400 soldats à travers le royaume. En 1764, avec la création de la pension d'invalidité, une plus grande clarté est amenée et permet à l'hôtel de ne plus souffrir de sureffectifs. Trois possibilités s'offrent alors, être soigné aux invalides, être détaché ou retourner chez soi avec la pension attribuée à son grade de soldat. Mais même si l'on remplit tous les critères, il y a tout de même une procédure bien établie pour intégrer les invalides. Il faut d'abord que le colonel du régiment propose votre admission et votre dossier devra ensuite passer par plusieurs étapes de confirmation. Ainsi, le chirurgien-major du régiment devra fournir un certificat médical qui devra lui-même être confirmé par le chirurgien-major de l'hôpital où vous serez pris en charge. Ensuite, l'inspecteur d'armes nommé par le roi devra examiner votre candidature. Si elle est acceptée et qu'il reste des places disponibles aux invalides, vous bénéficiez d'un congé ainsi que d'une somme d'argent qui doivent vous permettre de pouvoir gagner la capitale en temps et en heure. Une fois arrivé à l'hôtel des Invalides, votre dossier est examiné par le chirurgien-major de l'institution qui aura le pouvoir de vous admettre au sein du bâtiment ou de vous y conduire. Entre 1670 et 1790, seulement 3% des soldats invalides seront refoulés par le chirurgien-major de l'institution. Preuve de la solidité d'un système certes fastidieux administrativement, mais il convient de le préciser, diablement efficace. Il est également intéressant de préciser qu'un certain nombre de places étaient réservées pour tel ou tel type de pensionnaire. Ainsi, l'ordonnance du 17 juin 1776, qui limite à 1500 le nombre de pensionnaires, répartissait les occupants tels que suit. 950 places pour les soldats, 212 pour les bas-officiers, 60 pour les maréchaux des logis, 200 pour les lieutenants, 60 pour les capitaines, 12 pour les commandants de bataillon et 6 pour les lieutenants-colonels. Enfin, faire votre entrée aux Invalides ne vous assure pas une place illimitée dans le temps. Rarissime puisque cela concernait moins d'1% des pensionnaires, le chirurgien-major pouvait proposer un séjour de plusieurs mois seulement, jusqu'à guérison. Intéressons-nous maintenant au registre de l'Hôtel National des Invalides. Des chercheurs ont en effet dépouillé 11 528 notices individuelles qui couvraient la période 1670-1791. L'on apprend ainsi que près de 90% des pensionnaires étaient originaires du royaume, mais que des Suisses, des Irlandais ou encore des Suédois avaient séjourné aux Invalides après avoir combattu dans les armées du roi. Sur la période étudiée, on apprend également que l'âge moyen des soldats lors de leur admission était de 47 ans et 9 mois. 99% sont de confession catholique, 20% d'entre eux se déclarent mariés, chiffre qu'il convient, selon Elisabeth Belmas, de revoir à la hausse puisque certains préféraient se déclarer célibataires de peur d'être refusés. Au bout du compte, nous précise donc Elisabeth Belmas, l'admitype apparaît comme un soldat originaire de la moitié nord du royaume, célibataire et catholique, approchant de la cinquantaine. Et c'est là-dessus que nous terminons notre premier épisode sur l'Hôtel Royal des Invalides. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce podcast de La Science, Quelles Histoires. Et pour terminer, précisons comme toujours que cet épisode, comme tous les autres de notre chaîne, a été écrit sans parti pris ni préjugé. Nous faisons en effet tous les efforts possibles pour vous apporter des textes clairs, précis et basés sur des sources fiables. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions, évaluations et petites étoiles sur les différentes plateformes de podcast ainsi que sur notre site internet fondation-ipsen.org ou notre page Facebook Fondation Ipsen. Merci à tous de votre soutien et je vous donne rendez-vous d'ici quelques semaines pour notre deuxième épisode qui évoquera le laboratoire social qu'étaient les Invalides et la compréhension du handicap de l'époque à travers la terminologie utilisée dans les registres. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à très vite.